affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers auditeurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Academy. L'émission de ce jour nous conduira dans l'Italie du XVe siècle, à Pérouse, Florence, mais encore à Rome et à Venise, dans le sillage de l'un des plus grands peintres de la Renaissance, j'ai nommé Pietro Vannucci, dit le Pérugin, en raison de sa naissance près de Pérouse vers 1450. Admiré en son temps dans toute l'Europe, le Pérugin dut très vite sa notoriété à ses tableaux d'inspiration religieuse et particulièrement à ses vierges à l'enfant. Leur idéale douceur, leur éclat cristallin, mais aussi leur présence tendre et charnelle, plaçaient le genre sous le signe de l'humanisme naissant. Par ailleurs, son traitement nouveau du paysage, à la fois réaliste et simplifié, l'élégance de ses figures, souvent saisies en contrapposto, la puissance expressive accordée à la couleur, l'audace, enfin, de nombre de ses compositions faisait de lui un précurseur. À la charnière du XVe et du XVIe siècle, le Pérugin allait ouvrir la voie à la seconde Renaissance. De fait, il influença ainsi nombre de ses contemporains, et parmi eux, l'illustre Raphaël, dont il fut vraisemblablement le maître, ou encore simplement le devancier respecté, de 33 ans son aîné. Mais l'élève alla plus loin que le maître, et éclipsa en partie dans la mémoire collective le prestige pourtant immense dont bénéficiait le Pérugin. Alors, l'exposition que lui consacre le musée Jacquemart-André jusqu'au 19 janvier 2015 permet non seulement au public de le redécouvrir dans toute son ampleur, depuis les premières années de sa production jusqu'à sa mort en 1523, mais au terme d'une magnifique scénographie, l'exposition propose aussi de confronter ses œuvres avec celles de son prestigieux suiveur. 10 peintures au total de Raphaël, exceptionnellement réunies ici. Le visiteur est ainsi invité à mesurer par lui-même l'interpénétration des deux artistes et la nature véritable de leur relation, qui fait encore débat parmi les historiens de l'art, comme nous allons le voir. Alors aujourd'hui, pour nous guider et nous éclairer dans cet univers fascinant et subtil de la peinture italienne, alors en pleine rénovation, nous avons la chance d'accueillir dans notre studio Nicolas Sainte-Foire-Garneau, conservateur du musée Jacquemart-André et commissaire associé de l'exposition « Le Pérugin, maître de Raphaël ». Donc Nicolas Sainte-Foire-Garneau, bonjour.
Et bonjour.
Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui suis heureux d'être présent.
Alors avant de nous poser la question de l'influence du Pérugin sur ses contemporains, je vous propose de retracer pour nous l'histoire de ce peintre et notamment sa trajectoire initiale. Pouvez-vous nous rappeler d'où il venait, à quelle école il fut lui-même formé ?
Oui, certainement. On ne connaît pas malheureusement la date exacte de la naissance de Pérugin. C'est dans une petite bourgade non loin de Pérouse. Et ce que l'on sait, c'est que sa famille est une famille, disons, très, très aisée. Son père serait un magistrat et haut commerçant. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va laisser son fils libre du choix de son avenir et que donc ce jeune garçon va pouvoir envisager la carrière d'artiste et plus particulièrement de peintre. Alors, il doit être formé localement, mais dans un premier temps, mais très vite, il rejoint Pérouse, qui est la capitale de l'Ombrie, qui est une ville active, avec des institutions religieuses, une commune libre, et donc des commanditaires potentiels. Et très certainement, il va fréquenter l'un des grands ateliers de peinture de la ville. On en cite plusieurs, et notamment celui de Bartolomeo Caporali. C'est un nom que j'aurai l'occasion de répéter à plusieurs reprises, parce que, en effet, on verra qu'il a certainement vu et pris sa première matière chez ce peintre. Mais Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut regarder autour, et pas seulement, à l'époque, dans les ateliers d'artistes, pour comprendre la première formation de Pietro Vannucci, qui deviendra plus tard le Pérugin. Je dois rappeler à nos auditeurs qu'il y a, à l'époque, dans les églises de Pérouse, un grand retable qui a été peint et réalisé par Fra Angelico. Ce retable date des années 1440. Et puis, à côté, dans une autre église de Pérouse, vous avez un autre retable qui a été réalisé par Piero della Francesca. Alors, ces deux retables sont aujourd'hui conservés à la Galerie nationale de Lombrie. Mais quand on les voit côte à côte à la galerie, on comprend que le premier, dans les années 1440, et le second, une dizaine d'années plus tard, représentaient ce qu'il y avait de plus novateur dans la peinture italienne de ce temps. Et que par conséquent, le jeune Pietro Vannucci, il a été formé dans un atelier certainement traditionnel. On lui a appris le métier, mais du point de vue du style et de l'inspiration, on peut penser que les modèles qu'il a reçus n'étaient pas forcément les plus novateurs. À l'inverse, il avait néanmoins sous les yeux des modèles qui étaient des modèles qui pouvaient l'inspirer à chercher d'autres solutions auprès de ses artistes. Et ça, c'est l'intérêt de ce foyer, parce que Pérouse a été depuis longtemps une ville, je le répète, active, et donc elle a su retenir à différents moments des artistes. Il y a notamment l'atelier des Pisano, quelques siècles plus tôt, qui a réalisé la célèbre fontaine municipale avec des sculptures qui étaient presque néoclassiques, alors qu'on était en pleine période médiévale. Et donc tout ça montre que Pérouse n'a jamais été insensible à des influences extérieures et n'a jamais refusé, entre guillemets, l'avant-garde.
D'ailleurs, l'exposition montre deux tableaux, je crois, de jeunesse du Pérugin.
Oui.
Oui,
bien sûr, bien sûr. Alors, si vous voulez, c'est le milieu dans lequel il baigne. C'est un milieu, finalement, il faut le dire, assez ouvert. Et au fond, ça va permettre à ce jeune homme de se frotter à de bons maîtres autour de lui, à regarder de près des modèles divers. Et puis alors, il faut bien le dire, hein, parce que je crois qu'on va casser tout de suite et très rapidement tous les mythes. Pérugin, c'est pas le jeune homme gracieux, indolent, que l'on imagine, parce qu'on se fait une image de sa peinture qui n'est pas tout à fait exacte. Moi, je voudrais vous emmener dans le collège des banquiers de Pérouse, sur place. C'est le Collegio del Cambio. Et là, on découvre un décor que Pérugin va réaliser plus tard dans sa carrière, qui est un décor sur lequel éventuellement on reviendra. Ce sont des fresques, donc vous imaginez qu'elles ne sont pas dans l'exposition. On n'a pas détaché cet ensemble pour le faire venir à Jacquemart André. Mais ce qui est passionnant, c'est que dans la voûte la salle d'audience, vous avez un médaillon, et sur ce médaillon, on voit le portrait, qui est l'autoportrait de Pérugin. Et qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre un homme, à l'époque d'âge mûr, mais qui a l'air pas commode du tout. C'est un visage qui est fermé, un visage qui est, vigoureux. Le regard est aigu, la bouche est fermée sur elle-même, les lèvres serrées. Et on se dit, mais voyons, cet artiste, c'est un homme d'une détermination. Et aussi, il faut le dire, on devine une ambition sans limite. Donc il faut bien se faire... Je crois que c'est en regardant ce portrait qu'on comprend mieux à qui l'on a affaire. Hein. C'est au tout début de l'histoire, un jeune homme, mais ce jeune homme, il va être porté par l'envie de devenir le plus grand peintre d'Italie.
Donc on l'imagine particulièrement déterminé quand même quitter Pérouse pour Florence, puisqu'il va être aussi formé dans l'atelier de Verrocchio au début des années 1470. Et pourquoi cette formation dans l'atelier de Verrocchio fut-elle si décisive dans sa carrière ?
Alors, je vous le disais, il a vu, notamment avec Piero della Francesca, des peintures qui installent la figure humaine. Alors, il s'agit de scènes religieuses, naturellement, puisque c'était des retables ou des polyptiques qui provenaient des églises de la ville. Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc, avec Piero della Francesca, on a une maîtrise totale de la perspective, et on a un sens de l'implication de l'homme dans le monde qui l'entoure, qui est très sensible. D'où viennent ces révolutions picturales que cet artiste, qui n'est pas florentin, a petit à petit élaborées ? Eh bien, elles viennent néanmoins de Florence, parce qu'on sait qu'au tout début de sa carrière, il a travaillé à Florence. Et Florence est l'endroit, je vous le rappelle, où au début du XVe siècle, je suis obligé de remonter très haut. Hein. On était dans les années 1470, vous l'avez dit, on va remonter de 50 ans. Et 50 ans auparavant, vous avez le chantier de la cathédrale avec la construction du nouveau dôme, le Duomo, qui va donner son surnom à l'église. Et c'est le théoricien Alberti, c'est l'architecte Brunelleschi qui imagine des solutions inédites pour installer ce monument en suspension au-dessus de l'ancienne cathédrale gothique. Et en même temps, vous avez un peintre qui s'appelle Masaccio et qui imagine une traduction dans la peinture. Je vous rappelle que la peinture, c'est un panneau peint et donc il n'y a pas de profondeur. Alors, si on veut donner de la profondeur, il faut mettre en place une perspective, ce que les artistes italiens ne faisaient pas ou mal jusqu'alors. Et la grande transformation, c'est Alberti qui explique, schéma géométrique à l'appui, comment on trace une mise en perspective sur un panneau à plat. Et désormais, les peintres ont la possibilité de, donner de la profondeur à leur composition. Et c'est tellement scientifique que l'œil n'est pas arrêté par une incorrection, une faute, un détail qui ne serait pas à sa place ou dans sa bonne proportion. Je vous rappelle qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du plan de l'œuvre, de la peinture, comme on le fait nous-mêmes en regardant l'horizon, eh bien les figures diminuent de taille. Donc si vous avez une figure qui est trop grande, ça va perturber votre vision. Grâce à Alberti, tout ça est corrigé. Et donc, voilà pourquoi il fallait aller à Florence, parce que c'est là qu'on avait la méthode, la clé pour pouvoir mettre en place cette nouvelle façon de peindre. Et c'est chez Verrocchio.
Alors, il y a un modèle qui va particulièrement inspirer le Pérugien chez Verrocchio, c'est celui de la Vierge à l'enfant à la fenêtre.
Oui, alors, il faut là aussi s'arrêter un instant et rappeler de quoi il s'agit. Verrocchio, c'est le premier artiste de la Renaissance florentine, dans le sens où ça sera le premier artiste qui entend maîtriser toutes les disciplines artistiques. Alors, il est à la fois sculpteur, son métier d'origine, il est sculpteur, mais il est peintre également, il est orfèvre, il est architecte, il est dessinateur, enfin, il est dans toutes les activités capable de proposer des cartons, des dessins, et sous sa direction, ou à côté de lui, on va réaliser ce qu'il a imaginé. Sur un certain nombre de grandes statues, donner des références pour des années et des années aux artistes qui l'entourent. Alors, il y a cet exemple que vous indiquiez qui est celui de la Vierge à la fenêtre. De quoi s'agit-il ? Eh bien, dans les années 1470, on a quelque chose, un phénomène qu'on n'a pas l'habitude de mettre en avant, mais qui était bien présent, qui est, l'arrivée de tableaux flamands dans la ville. Et les tableaux flamands, ce sont les tableaux de Van Eyck, de Van der Weyden et plus tard de Van der Goes. Je vous rappelle qu'aux offices, à la Galerie nationale, eh bien, on a toute une série de tableaux flamands qui décoraient les églises de Florence. Ce sont des importations venues soit de façon indépendante, soit même, dans certains cas, nous savons que les artistes ont passé un séjour sur place et qu'évidemment, ils ont eu l'occasion de réaliser ces compositions. Et s'agissant d'œuvres de dévotion privée, où on a l'habitude assez fréquente de représenter une Vierge à l'enfant, le modèle flamand, c'est d'installer la Vierge derrière une fenêtre. Alors, vous avez l'encadrement de la fenêtre qui vient s'appliquer contre le cadre du tableau et qui vous donne déjà la profondeur parce qu'on est obligé de passer derrière pour mesurer, saisir la figure qui vous est proposée, à savoir cette Vierge qui tient souvent l'enfant Jésus sur ses côtés. Et Verrocchio va regarder ce modèle et il va vouloir le reproduire. Alors, sur ces bas-reliefs, il va tailler la bordure horizontale qui supporte la composition à la manière de ce rebord de fenêtre, d'où le titre de ce bas-relief et de cette sculpture. Et puis alors on voit donc cette Vierge qui est traitée, qui nous regarde et qui tient l'enfant Jésus à ses côtés. Comme je vous le disais, Verrocchio a autour de lui des jeunes qui ont 15, 18, 20 ans et qui aspirent à devenir célèbres. Ils sont déjà saisis par l'ambition de devenir eux aussi de très grands maîtres. Alors, ils vont regarder ce qu'il y a dans l'atelier de Verrocchio et notamment ils voient ce bas-relief. Alors, ils sont saisis d'une envie étonnante et chacun d'entre eux va se dire « Nous faisons en peinture une reproduction de ce bas-relief et nous verrons lequel d'entre nous est le plus excellent. » Alors maintenant, il faut que je vous dise que dans cette bande de garnement, il y en a un qui s'appelle Sandro Botticelli, il y en a un deuxième qui s'appelle Léonard de Vinci, il y en a un troisième qui s'appelle Ghirlandaio, il y en a un quatrième qui s'appelle Rosselli, et puis, je ne vais pas dire le petit dernier, c'est Pietro Vannucci.
Donc une émulation.
Donc, vous avez cette émulation extraordinaire qui se fait et surtout, alors c'est une découverte qui date des années 1990 et qui est due à un grand historien de l'art anglo-saxon. On a dans les musées recherché et retrouvé ces tableaux faits à l'occasion de ce concours entre les élèves de Verrocchio. Alors, il y a des tableaux qui sont à Washington, il y a des tableaux qui sont à Berlin, d'autres à Londres, dans la National Gallery. Et tenez-vous bien, il y a deux tableaux qui font partie, depuis la fin du XIXe siècle, des collections du musée Jacquemart-André. Il y a le Botticelli et il y a le Pérugin. Et alors, je voudrais commencer par le Botticelli parce que nous l'avons installé à côté du bas-relief de Verrocchio pour que le public puisse mesurer, en regardant de l'un à l'autre, à quel point la copie, entre guillemets, est fidèle. Alors, vous prenez le petit coussin sur lequel l'enfant Jésus est posé, vous prenez le manche de la, du vêtement qui habille la Vierge, vous prenez, enfin, tous les détails, et vous avez à chaque fois exactement du marbre à la peinture, vous avez exactement la même représentation. Donc on voit bien que l'inspiration, elle vient de Verrocchio et ensuite elle est diffusée au travers de ses élèves. Et puis alors, on va regarder le tableau de Pérugin et on s'aperçoit que, oui, il a utilisé le même rebord de fenêtre, oui, il a installé sa Vierge par derrière et l'enfant Jésus sur son coussin, dans la même position, avec un pied qui avance par rapport à l'autre, le bras levé exactement comme sur la sculpture. Enfin, tout se retrouve. Encore que... Ce qui est passionnant dans cette exposition, c'est que on s'aperçoit que Pérugin imite Verrocchio, clairement, le modèle se constate à l'œil nu, mais il y a d'autres détails qui n'existent pas dans le modèle de Verrocchio. Alors, il faut regarder un peu à côté un tableau de Caporali, le premier maître de ombrien de Pérugin, et on s'aperçoit que les bouquets de fleurs qui étaient traités d'une façon assez singulière en bouquets chez Caporali, on les retrouve exactement traités de la même façon chez Pérugin. Et il y a en plus un souci de l'élégance, du sens décoratif. Il y a des guirlandes qui n'existaient pas chez Verrocchio et qu'on retrouve chez Pérugin. Tout d'un coup, nous voyons que chez cet artiste, il y a, quand on analyse comment il fait son tableau, il y a une première étape qui, manifestement, est le souvenir de son apprentissage Pérugin. Et puis, il y a une deuxième étape qui est le souvenir de son apprentissage florentin. Et puis alors, il faut tout de suite le dire, il y a quelque chose de très neuf chez lui, c'est dans l'arrière-plan, la mise en place d'un paysage qui est un paysage qui ne se rencontre pas chez ses contemporains. Est-ce que c'est le paysage ombrien par excellence, cette douceur que l'on rencontre dans la campagne autour de Pérouse? On peut l'imaginer, mais en tout cas, ça devient une marque de fabrique chez lui. Il y a aussi quelque chose que je voudrais signaler, parce que finalement, ça explique bien le caractère de cet artiste. Vous regarderez également le fermoir d'orfèvrerie qui tient le manteau de la Vierge. Et on est, très, très surpris par la qualité. C'est un fermoir avec des pierres précieuses, des bijoux. Et à chaque fois, la transparence, l'éclat de la pierre est rendu d'une façon remarquable. Alors on se dit que Pérugin a trouvé là quelque chose de tout à fait bien. Mais la vérité, c'est que là aussi, cette idée-là, il l'a reprise chez les maîtres flamands. Parce que allez regarder, comme je vous le disais tout à l'heure, les tableaux de Van Eyck, de Van der Weyden, et vous allez retrouver là ces idées, ces modèles qui vont ensuite lui servir. Donc, que devons-nous conclure de, au fond, ces premières étapes et de ces premières œuvres qui sont conservées? On pourrait raisonner de façon négative et dire « Ah ben finalement, il va attraper chez tous les artistes qui sont bien meilleurs que lui ce qu'il y a de mieux de façon à pouvoir essayer de se mettre à leur niveau. » Mais moi, j'ai une autre interprétation. Je pense que ici, je profite des leçons que Victoria Garibaldi m'a données. Victoria Garibaldi, c'est notre commissaire de l'exposition, c'est la spécialiste italienne de Pérugin. Elle a été longtemps directrice de la Galerie nationale de l'Ombrie et à ce titre, on n'a, je dirais, pas meilleur connaisseur qu'elle sur ce sujet. Et Victoria Garibaldi, elle considère qu'on a ici la marque de ce regard très, acéré que Pérugin porte sur toute la peinture de son temps. Et chaque fois qu'il trouve profit, alors il n'hésite pas à attraper ici ou là ce dont il pourra se resservir.
finalement, pour aboutir à une création originale.
Voilà, voilà. Donc, c'est ça qui est extraordinaire à mon sens, c'est qu'il y a chez lui un appétit vorace d'aller chercher partout ce qui est, de son point de vue, le meilleur, et puis de s'en servir pour aboutir à une synthèse. Alors, ça, c'est un qualificatif que je voudrais bien laisser à nos auditeurs. Pérugin, c'est un homme de synthèse. Il va regarder dans tous les foyers artistiques qui l'entourent, voilà, les exemples qui peuvent l'inspirer, il va s'en souvenir, il va les retravailler, et puis ensuite il va nous les restituer, mais sous une forme qui n'appartient qu'à lui.
Alors c'est grâce notamment à ces madones qu'il va connaître très vite le succès financier et la gloire. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont la particularité de ces madones, justement, dans leur expression? On a parlé de peintres de la douceur.
Si vous regardez ces vierges, et en particulier si vous regardez les visages, vous voyez que l'ovale est particulièrement bien dessiné. Vous voyez que, d'une certaine façon, d'un tableau à l'autre, c'est toujours les mêmes traits que l'on rencontre sur la face de ces vierges, avec des yeux qui eux-mêmes sont traités comme des ovales, mais à l'horizontale, avec des petits nez, avec une bouche aux lèvres ourlées, mais ni épaisse, ni de travers. Et on se rend compte qu'il y a chez lui le souci qui n'est pas le fait du hasard, c'est une volonté, c'est une maîtrise qui va là où il veut la mener. Il veut offrir à sa clientèle ces vierges à l'enfant, ces tableaux de dévotion qui sont des images, je dirais, les plus parfaites du point de vue, en effet, de la douceur, parce que pour lui, la douceur, c'est l'image du sentiment qui relie la mère à l'enfant. Et donc, dans le dessin, il y a cette perfection. Dans la composition, il n'y a pas de déséquilibre. Et dans l'étagement des plans, il y a là aussi une forme d'harmonie qui à son sens, si on veut bien comprendre que Pérugin ne cherche pas du tout à, représenter un modèle qu'il a dans son atelier, une jeune femme qui lui est agréable. Je vous rappelle que c'est ce que fera en son temps Raphaël. Raphaël est fou amoureux d'une jeune femme qu'il a rencontrée à Rome, et elle devient le modèle de toutes les femmes qu'il a à peindre sur ses tableaux. Chez Pérugin, ce n'est pas du tout le cas. Pérugin, il imagine une beauté idéale. Or, de ce point de vue-là, il est le premier peintre qui imagine une solution de ce type pour figurer ses représentations. La Vierge est évidemment une femme dont on ne possède pas le portrait, bien entendu. Alors, il faut imaginer des traits. Donc, il en donne une représentation idéale. Et il y a autre chose sur quoi je voudrais insister, qui est le fait que, si j'ai parlé tout à l'heure de la peinture flamande, eh bien, je voudrais maintenant vous rappeler que Pérugin va très rapidement se mettre à la peinture à l'huile. Il a, je l'ai dit tout à l'heure, vu les tableaux flamands, donc des tableaux peints à l'huile. Il va garder longtemps le support bois, alors que les tableaux flamands sont peints sur toile. Ça lui arrivera à la fin de sa carrière de peindre sur toile, mais pendant la majorité du temps où il réalise ses compositions, il gardera le support bois, qui est un support traditionnel en Italie. À l'inverse, il peint à l'huile. Que donne l'huile ? La transparence, ça permet la profondeur. Et de ce point de vue-là, il installe ses personnages, et notamment ses vierges, dans une atmosphère qui est, sensible, et je dirais même jusqu'à dire vibrante. Donc, lorsque vous êtes placé devant ces tableaux, vous avez le sentiment que réellement, vous avez devant vous une fenêtre, que derrière, vous avez cette femme qui vous regarde et que vous sentez le courant d'air qui passe et qui va vous rafraîchir. Vous voyez derrière, dans l'éther du lointain, vous voyez ces très beaux arrière-plans traités en bleu translucide et vous avez l'impression, au fond, que vous n'êtes pas tout à fait sur Terre, mais quelque part, non loin du paradis. Donc voilà ce que fait Pérugin. À la fois, si vous voulez, c'est ça qui est très très étonnant, à la fois il invente une peinture qui est sensible, que nous pouvons percevoir avec nos sens, et en même temps il nous propose des visions idéales. Et si vous voulez, c'est dans le choix très subtil de ces deux qualités qui paraissent contradictoires que tient et réside l'art du Pérugin. Il nous donne cette iconographie qui, au fond, nous enchante. Et évidemment, on ne peut pas l'oublier une fois qu'on l'a vu.
Alors, ce motif de la Vierge à l'enfant, à la douceur, à l'éclat cristallin que vous venez d'évoquer, va faire la fortune et la renommée du Pérugin en Toscane et en Ombrie, sa région d'origine, mais encore dans toute l'Italie et bien au-delà. Et cet attrait grandissant pour ce qu'on appelle désormais sa Dolce Maniera va lui attirer des commandes de plus en plus prestigieuses. Et le pape Sixte IV l'invitera même à décorer la chapelle Sixtine. Quel sera son rôle sur ce chantier et quelle orientation va-t-il donner alors à son art ?
Alors, vous avez parfaitement raison de souligner, on était dans les années 1470, Pérugin sort de Florence avec un bagage culturel enrichi, il s'installe et il commence à travailler, et puis en 1481, le voilà qui fait le voyage à Rome. Et à Rome, il rencontre le pape qui lui dit « Écoutez, voilà, la chapelle, ma chapelle doit être décorée et je vous confie la mission de réaliser le décor. » Alors, là aussi, je suis obligé de m'arrêter un instant et de faire un petit point sur ce que nous voyons aujourd'hui en visitant la chapelle Sixtine. Nous voyons, nous levons les yeux au plafond et nous voyons la voûte de la Sixtine avec ces figures extraordinaires, gigantesques que Michel-Ange a réalisées. Mais alors, après la mort de Pérugin. Et puis, nous voyons dans le fond de la chapelle le jugement dernier qui est la fin de la décoration qui intervient, là encore, après ce deuxième chantier, c'est-à-dire celui de la voûte. Il n'a pas peint d'un seul coup toute la chapelle. Et ce faisant, et à propos du jugement dernier, je vous rappelle que Michel-Ange, qui entretenait des relations très mauvaises avec le Pérugin, il le traitait tous les noms, il n'a pas hésité à gratter sur le mur la fresque que Pérugin avait réalisée, qui était une Assomption de la Vierge. Donc il l'a grattée de façon à ce que lui puisse installer son jugement dernier. C'est vous dire que la place de Pérugin, elle était très grande à l'époque. Et alors, je reviens un petit peu sur l'organisation du chantier. Le Sixte Quint demande à Pérugin tout simplement de diriger une équipe de décorateurs. Il voulait que ça aille vite, il voulait être sûr que chacun ferait sa part. Et qui choisit-il pour tenir tous ces artistes forcément un petit peu remuants afin que le chantier aille jusqu'à son terme? Eh bien, il choisit le Pérugin. C'est-à-dire que déjà, à ce moment-là, Pérugin est considéré, il a, je vous le rappelle, 30 ans et quelques années, rien de plus. Il est déjà considéré comme le premier peintre parmi les autres. Alors les autres, qui sont-ils ? C'est tous ces petits copains de Florence. Il fait venir Ghirlandaio, Botticelli, Rosselli, et il les installe donc pour réaliser alors le décor latéral, c'est-à-dire ce qui est sur les murs. Et il va imaginer une solution qui existait, qui a déjà existé par le passé, mais qui est très subtile. Il va installer sur plusieurs registres le décor, sur le registre bas, c'est-à-dire au niveau des personnes qui sont dans la chapelle, il va installer de fausses tapisseries. Ce sont des tapisseries peintes. Donc, il utilise le système de l'illusionnisme. Et puis, au-dessus, il va installer une corniche peinte. Et au-dessus de la corniche, il va créer de grandes ouvertures. Et ces ouvertures vous donnent accès à ce qui est derrière les murs. Et là, on découvre... Alors, en suivant chaque paroi, à gauche et à droite, deux cycles, l'un sur l'histoire de Moïse, l'autre sur l'histoire du Christ. Et vous avez, panneau par panneau, épisode par épisode, le déroulement de ces deux histoires. Alors, Pérugin va réaliser trois panneaux de son côté, et puis après, il terminera sur le mur du fond avec l'Assomption de la Vierge que j'évoquais tout à l'heure. Et il y a notamment ce panneau célébrissime qui représente le Christ donnant à Saint-Pierre les clés, c'est-à-dire la transmission. Le Christ, on sait qu'il va monter au ciel, et puis il laisse les clés de la maison à qui ? À Saint-Pierre, qui va devenir le premier pape. Donc c'est aussi une histoire qui intéresse le pape qui fait la commande de ce cycle décoratif. Et il est le successeur de Pierre. Cette scène qui se déroule au premier plan avec les différents personnages qui sont là, eh bien, on y voit, comme par hasard, dans la foule qui entoure le Christ et Saint-Pierre, on y voit un bonhomme qui a une tête qu'on reconnaît immédiatement. C'est Pérugin lui-même. Voilà. Et de l'autre côté, qui voit-on ? Comme par hasard, un jeune homme, et on dit que c'est Raphaël. Alors, cette scène qui occupe le premier plan de la composition, elle s'installe dans un champ visuel qui va sur la profondeur, et tout au fond de la composition, on retrouve une espèce de temple de forme octogonale qui est presque une signature, puisque c'est un monument qu'on retrouve chez Pérugin dans nombreuses compositions, et en particulier dans le mariage de la Vierge, qui est aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts de Caen. Alors, c'est un grand tableau d'église que nous n'avons pas voulu emprunter parce qu'il est fragile, mais au moins... je pense que son évocation dira à vos auditeurs, puisque c'est un des tableaux les plus célèbres de cette période. Alors, vous voyez, là encore, Pérugin bien marqué sa place. S'il est retenu par un pape dans sa chapelle au Vatican, dans la ville éternelle, eh bien, c'est certainement qu'il est le premier parmi tous les artistes de son temps.
Alors, je voudrais revenir sur le mariage de la Vierge que vous venez d'évoquer en faisant une comparaison un petit peu avec la remise des clés à Saint-Pierre, parce que en effet, sur ce tableau, on observe de savants effets de perspective, donc avec le dallage, la grâce aussi des petits personnages du second plan qui s'animent en agitant le bras, en posant le pied un peu plus haut que l'autre, le groupement en frise du premier plan, donc les figures principales, et puis aussi tout un jeu subtil des coloris, des drapés, une alternance comme ça qui donne un peu la dynamique à l'ensemble. Et toutes ces innovations, toutes ces recettes, si vous m'autorisez à employer ce terme, seront celles qu'utilisera à nouveau le Pérugin, justement plus de 20 ans plus tard, dans le mariage de la Vierge du musée des Beaux-Arts de Caen. Une œuvre qui, manifestement, a inspiré justement Raphaël, qui lui-même a réalisé le mariage de la Vierge qu'on peut voir à la Pinacothèque Brera de Milan. Alors, peut-on dire ainsi que dès les années 1480, d'une certaine manière, le Pérugin invente un langage pictural, déjà à ce moment-là, à partir duquel va éclore finalement le classicisme propre à la Seconde Renaissance et qui va donner petit peu.
Alors,
son...
si vous le permettez, je nuancerai un petit peu votre propos. Je dirais qu'à ce moment-là, Pérugin a mis en place un système pictural où la composition, les éléments secondaires qui normalement ne tiennent qu'une une petite place dans une composition, une peinture, ces éléments-là viennent jouer un rôle aussi important que la figure ou le paysage plus loin. Quand on regarde, pour revenir aux clés remises à Saint-Pierre, on voit bien que c'est pas seulement l'idée du temple octogonal. Je ne l'ai pas précisé, mais je pense que c'est utile à ce moment-là que je le dise. C'est une figure géométrique parfaite, idéale. Et ce temple-là, il est exactement placé au point de perspective. Et il est entouré par deux pavillons exactement symétriques. Donc, qu'est-ce que Pérugin nous propose sans le dire, franchement? C'est un modèle de composition où tout s'équilibre. C'est-à-dire que si on pliait la scène en deux, eh bien on aurait une juxtaposition parfaite. Et ça, il nous induit dans un monde qui est un monde d'équilibre. Et ça, c'est la grande leçon, parce que c'est ce sur quoi je voudrais insister. Pérugin est un artiste qui va marquer les 20 dernières années du 15e siècle dans le sens où il élabore une imagerie qui est censée représenter ce monde de douceur, ce monde de perfection. Ne croyez pas que le monde de l'époque ait été à l'image de ces tableaux. C'est un monde dans lequel vous avez succession d'épidémies, c'est un monde dans lequel vous avez succession de guerres. Mais alors, je vais prendre une autre date, 1492, découverte des États-Unis. N'oublions pas que c'est aussi un moment d'extraordinaire avancée de toutes nos connaissances. Il y a un optimisme, il y a un dynamisme qui se répand dans toute la société. Et au fond, ce que propose Pérugin, c'est une image parfaite de ce monde-là. Donc, voilà pourquoi il est le premier. Alors, vous avez raison, le jeune Raphaël s'inscrit complètement dans ses premières années, s'inscrit complètement dans cette, orientation. Mais vous avez aussi raison de dire que Pérugin, finalement, c'est un peintre qui va aller bien au-delà de tout ça, et que dès le début du XVIe siècle, alors je suis obligé à nouveau de me référer à des événements, mais vous comprendrez que les rappeler à son importance, 1527, sac de Rome, les armées impériales viennent détruire la ville sainte, et que pour les chrétiens de l'époque, c'est un renversement total, c'est un tremblement de terre. On ne pouvait pas imaginer que on vienne tuer. Ce sont des mercenaires, hein, donc ils se contrefichent de savoir quelle est votre croyance. Ils cherchent à faire de bonnes affaires, donc ils détroussent toutes les personnes qu'ils rencontrent et n'hésitent pas à les tuer. Le pape s'enferme dans le castello en centre-ville, et puis il va essayer de négocier pour que les troupes impériales s'en aillent, mais ça restera un dommage terrible. Et puis après, vous savez, c'est la contestation de Luther et de Calvin, ce sont les guerres incessantes, ça sera la poursuite des invasions françaises en Italie. Enfin, le monde tombe complètement sur lui-même, et on ne sait plus très bien, si j'ose dire, à quel saint se vouer. Donc, on rentre dans une période tragique, et Michel-Ange, comme Raphaël, vont être les interprètes de ce tragique de l'histoire. Alors que Pérugin, il a été, l'interprète de ce qu'on pourrait imaginer comme un âge d'or même si ce n'est pas tout à fait exact, mais quand même, il nous a donné à voir quelque chose à quoi on pouvait un peu croire à cette époque.
Un univers idéal qu'on aurait peut-être aimé immuable à ce moment-là. Donc, fort d'un succès grandissant, le Pérugin se retrouve à la tête d'une entreprise florissante et attire à lui de nombreux élèves et assistants. Alors, comment s'organisent alors ces ateliers, les ateliers de Pérugin ?
Alors, Pérugin, dans ces années-là, il est à la tête de deux ateliers. Il y en a un à Florence, il y en a un à Pérouse. Et puis, Victoria Garibaldi me le faisait remarquer, là aussi où il est assez exceptionnel, quand il voyage, parce que lui-même se déplace, il reçoit des commandes de grands mécènes, donc il fait le voyage, il va rencontrer ses mécènes, il écoute leurs demandes et puis il réalise sur place, pendant un temps donné, les œuvres qu'on lui a commandées. Et comme il ne peut pas tout faire, il demande aux artistes locaux de l'assister. Donc, ça veut dire en réalité qu'en termes d'influence, Pérugin va en quelque sorte inonder toute l'Italie. Comment procède-t-il dans le cadre de ces ateliers ? Bon, on le sait parce qu'il y a d'autres exemples. Le maître va dessiner la composition. Nous avons un dessin qui est très intéressant. C'est un dessin de Raphaël pour l'une des compositions que nous présentons en comparaison et à la fin de l'exposition, qui est ce qu'on appelle une première pensée pour la composition d'un grand retable. Et on voit en réalité que sur ce dessin, les personnages principaux apparaissent, mais pas là où ils seront dans le stade final. Donc il y a un cheminement, il y a un travail qui est fait par l'artiste qui va positionner les différentes parties de sa composition avant de s'arrêter sur une idée en se disant ben voilà, là chaque personnage est là où il faut, les gestes, les attitudes correspondent à ce que je souhaite, donc maintenant, on va passer en grand, parce que le dessin est forcément, de petit format. Alors, il va quand même, ce qui est de plus en plus le cas, reprendre chaque figure, chaque personnage, chaque bâtiment ou partie de la composition pour le traiter dans le détail, être sûr qu'en effet, tout tient là où à sa place. Et puis, alors, s'il s'agit de fresques, s'il s'agit de retables ou de polyptiques de grande taille, ce qui est souvent le cas à ce moment particulier des premières années du XVIe siècle, alors il va réaliser ce qu'on appelle des cartons dans l'échelle que doivent avoir les personnages au final. Et ces cartons vont permettre de recopier la figure du personnage sur le support choisi.
Ce sont des sortes de calques.
Voilà. Et puis après, mais tout ça est fait par l'atelier. Et puis après, on peinturlure. Ce sont encore d'autres assistants qui vont ajouter la couleur. Et souvent, le maître se réserve, si vous voulez, la dernière touche en mettant ici un accent lumineux, là, en rajoutant un peu d'ombre ou de profondeur de façon à ce que le volume, par exemple, soit mieux représenté. Donc voilà comment ça fonctionne. Et il y a un moment donné où les spécialistes le disent, les historiens de l'art le disent, il y a un moment donné où on peut s'interroger sur le fait de savoir si l'œuvre est vraiment du Pérugin. Alors, je vais vous donner un exemple. Je n'en avais pas parlé jusqu'alors, mais je vais vous le dire. Nous avons à l'heure actuelle, aux ateliers de restauration du Louvre, un tableau qui est sorti des réserves du musée Jacquemart-André et qui est parti au Louvre, aux ateliers de restauration. Ce tableau, nous l'avons radiographié. Il représente une Vierge à l'enfant. Et Victoria Garibaldi est venue voir le résultat. Et elle nous a dit « il disegno, hein, », c'est-à-dire le dessin. On voit en transparence avec les infrarouges, on voit le dessin, et ce dessin, c'est Pérugin qui l'a fait. Mais la peinture, hélas, n'est pas de sa main. C'est ce que nous voulions savoir d'ailleurs. Est-ce que ce tableau, on peut l'attribuer au Pérugin ou est-ce qu'il faut le rendre ? Alors, de grands savants avaient proposé le nom de Tiberio d'Assise. Tiberio d'Assise, c'est un peintre d'Assise et Assise, vous savez, n'est pas loin de Pérouse. C'est un artiste qui a été formé dans l'atelier de Pérugin. Donc, il n'est pas étonnant qu'à un moment donné, il ait demandé au maître d'utiliser un carton, le dessin, pour faire le fond de la composition. Puis après, il a tout repeint. Au final, on s'est demandé si on devait engager la restauration, qui aurait été très longue. C'est ça qui nous a fait renoncer. Mais... montrer un tableau dont le dessin est de Pérugin et dont la peinture n'est pas de lui, est-ce qu'il avait sa place dans l'exposition ? Nous avons décidé que non. Mais il y a quantité de tableaux de ce type qui se trouvent encore dans les églises italiennes ou alors dans les collections occidentales, parce qu'évidemment, ces tableaux qui étaient très réputés, ils sont quelquefois voyagés et ils se retrouvent aujourd'hui en dehors d'Italie.
Alors, les détracteurs de Pérugin vont quand même beaucoup lui reprocher ses productions d'atelier en série.
Mécanique, on va dire, c'est de l'art mécanique. Effectivement, ça va contribuer à le discréditer.
Exactement. Mais malgré ce choix de production en série, quand même, à mon avis, il faut le souligner, le Pérugin va demeurer toute sa vie un véritable créateur, capable de renouveler son inspiration, d'assimiler les innovations de ses contemporains, exactement comme au début de sa carrière, vous le disiez tout à l'heure, pour les sublimer. Et pouvez-vous évoquer pour nous notamment son voyage à Venise et les leçons qu'il va en retenir ?
Écoutez, Venise, c'est 1494. Chronologiquement parlant, c'est avant qu'il réalise d'autres chantiers importants. Je pense en particulier à ce qu'il fait à Pérouse, au Collège du Change que j'évoquais tout à l'heure. Mais peu importe. Il est à Venise et il va réaliser un certain nombre de tableaux et puis il partira au bout de quelques... Je crois qu'il reste 3 ans à Venise. Vers 97, quand il continue à peindre, on voit tout d'un coup des tableaux qui n'ont plus rien à voir avec ceux qu'il faisait précédemment. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, nous avons une salle dans laquelle nous avons rassemblé les tableaux vénitiens. Et là, quand on les regarde, on comprend tout de suite qu'on a affaire à une autre peinture. Pour résumer les choses et aller au plus vite, ce qui a changé, par exemple, c'est qu'au lieu d'avoir ces paysages transparents qui permettaient de plonger jusqu'au plus lointain dans l'arrière-plan, eh bien, on a des fonds sombres et que les personnages se détachent, sortent de l'obscurité comme s'ils sortaient de la nuit. Alors on se dit, mais comment est-ce possible ? Comment cette transformation est-elle possible ? Et là, il faut que je vous raconte une histoire qui est absolument invraisemblable. Quelques mois avant la venue de Pérugin à Venise, c'est Léonard de Vinci qui était à Milan, après avoir fait ses classes à Florence, vers les années 1470, le voilà qui fait un séjour à Venise. Il laisse des tableaux et les historiens de Venise qui évoquent sa venue disent qu'il a fait grande impression. On n'en sait pas plus. Alors, on sait qu'il a laissé des tableaux. Léonard de Vinci a peint et laissé des tableaux, c'est-à-dire qu'on avait dû lui acheter ou lui commander des tableaux alors qu'il était à Venise. Malheureusement, on ne sait pas lesquels. On ne les a pas retrouvés. Vous savez que les tableaux de Léonard sont très peu nombreux et il y a toujours des problèmes d'attribution assez compliqués à leurs propos. Mais ce que l'on peut imaginer, c'est que Pérugin arrive, retrouve, non pas son vieil ami, parce que, Il ne l'a pas vu, mais par contre, il a vu les tableaux réalisés par Léonard. Et entre le moment où il avait rencontré Léonard à Florence et la fin des années 90, il y a une distance. Dans cette distance, Léonard a inventé le sfumato, c'est-à-dire cette façon si particulière d'ombrer ces personnages, de les plonger dans l'obscurité, de façon à ce que ça ne soit plus la lumière, mais l'ombre qui donne du volume au corps et au visage. Alors, Pérugin est stupéfait par cette invention formidable et il va la reprendre à son compte. Vous voyez, il continue à faire son miel de tout ce qu'il voit autour de lui. Et le voilà qui va se mettre, en effet, à peindre de cette façon-là. On a un autre, je le signale parce que c'est, si vous le permettez, l'un de mes préférés, un autre tableau de cette période qui est un petit Saint-Jérôme qui appartient aux collections du Kunsthistorisches de Vienne. Et c'est un tableau qui ne mise plus sur la transparence atmosphérique, mais qui mise sur le contraste lumineux entre un premier plan obscur et puis un deuxième plan qui l'est moins et qui crée cette dramatisation, le Saint Jérôme étant là avec ses pierres, il se frappe la poitrine, donc c'est une scène dramatique et il suffit de la regarder au premier coup d'œil pour comprendre en effet ce sentiment un peu tragique qui émane de l'œuvre. C'est presque un timbre-poste. Alors imaginez que sur une toute petite œuvre, Pérugin est capable de nous envoyer un grand coup de poing en pleine figure parce que cette représentation-là est impressionnante. Ça, c'est une des conclusions qu'on peut apporter à l'œuvre du Pérugin et une des raisons qui explique en quoi il est un grand peintre. C'est que, certes, vous le disiez à l'instant, à la fin de sa carrière, il a réalisé quantité d'œuvres, mais parce qu'on lui demandait, il ne faut pas l'oublier, hein, et qu'il devait faire face à une demande. Donc, il a fait en sorte, avec l'aide de plusieurs ateliers, de multiplier ses tableaux de dévotion. Mais quand on a la chance de pouvoir, à quelques moments que ce soit dans sa carrière, de regarder un tableau qui est 100% de sa main, on est chaque fois saisi par un sentiment, de profonde humanité. Quelquefois, c'est dans la douceur de l'existence, c'est le sentiment maternel qui s'exprime avec le regard ou même d'ailleurs le toucher échangé entre la Vierge et son fils, l'enfant Jésus. Et quelquefois, on mesure l'étendue de ses capacités. On a une vision beaucoup plus tragique, avec un personnage qui se mortifie ou avec une scène qui a trait à des, qui représente une histoire qui est profondément tragique.
Alors à Venise, il a réalisé aussi le portrait de Francesco delle Opere, oui, que l'on peut admirer dans l'exposition. Et dans le parcours de l'exposition, on voit aussi un portrait de Botticelli, cette fois, qui représente un jeune garçon en coiffe, réalisé vers 1470, donc presque 25 ans plus tôt. Oui. Et qu'est-ce qui sépare ces deux portraits, tous deux magnifiques en eux-mêmes? En quoi l'œuvre du Pérugin s'inscrit-elle dans une dynamique nouvelle?
Oui. J'oublierai volontiers, si vous voulez, la chronologie et les deux dates qui séparent ces tableaux, tellement ils sont éloignés l'un de l'autre, quoi qu'il arrive. Dans le tableau de Botticelli, vous avez cette image qui se détache sur un ciel pur et qui n'est pas occupée par aucune représentation naturelle de forêt, de montagne ou autre. Donc vous avez ce ciel presque délavé et puis une silhouette découpée à la serpette, ce jeune homme qui nous apparaît. Et de l'autre côté, vous avez donc ce marchand ombrien qui a été représenté à Venise, semble-t-il, puisqu'il avait son comptoir là-bas. Et bien, c'est tout le contraire. Il est pris dans cet espace tridimensionnel avec cette nature qui l'entoure. Et on a vraiment le sentiment, ses cheveux, sa chevelure est détaillée au fil près. On a vraiment le sentiment, si vous voulez, qu'on a affaire à une image réelle et en tout cas qui est prise dans cette profondeur et dans cette, comment dire, dans cette palpation qui est je le pense, sensible. Alors, pour résumer les choses, je dirais, ben voilà, d'un côté, vous avez l'image exacte de ce que cherche l'école florentine et de l'autre côté, de ce que cherche l'école ombrienne. D'un côté, vous avez le dessin et rien que le dessin. Et de l'autre côté, vous avez, la palpitation des matières et puis ce sentiment d'un environnement atmosphérique qui entoure le personnage et que cet environnement-là, il n'est pas de marbre, bien au contraire. Hein, c'est lui aussi, j'utilisais tout à l'heure la métaphore du courant d'air, mais on a l'impression que une matière qui est plus solide que éthérée, hein, qui entoure le personnage. Et ça évidemment, c'est tellement, tellement miraculeux qu'on se demande comment il a réussi un tel coup de maître.
Alors, Le Pérugin a aussi réalisé des œuvres d'inspiration profane, mythologique. Oui. Alors, ainsi, Le combat de l'amour et de la chasteté, réalisé pour Isabelle d'Este. Et puis aussi son Apollon et Daphnis, une œuvre qui a longtemps été attribuée à Raphaël.
Mais oui, mais c'est passionnant, rendez-vous compte. Alors, on ne sait pas très bien ce qui est du Pérugin ou de Raphaël. Ce tableau, c'est un tableau qui est proposé au Louvre au milieu du 19e siècle. Et donc, on dit aux conservateurs de l'époque, voilà, c'est un superbe Raphaël et personne n'en doute tellement le tableau est magnifique et correspond à l'image qu'on se fait de Raphaël. Bon, c'est formidable. Alors, le tableau, c'est une scène mythologique et c'est très important parce que, là encore, les recherches des historiens de l'art laissent à penser que ce tableau, c'est un tableau qui a été fait pour Laurent de Médicis. Et c'est très intéressant puisque, à nouveau, vous avez quelque chose qui se produit avec Pérugin, puisque vous avez compris que, bien entendu, le tableau est du Pérugin. Cette œuvre, c'est une œuvre qui propose un sujet mythologique. C'est-à-dire que les nouveaux mécènes, les nouveaux commanditaires, ce n'est plus l'Église, ce ne sont plus les ordres religieux, ce sont des nouvelles puissances du moment, et cela ne s'intéresse pas forcément ou pas uniquement aux représentations de la religion. Donc, Pérugin va être l'un des premiers, là aussi, à s'illustrer dans ce genre-là. Il y réussit parfaitement.
Depuis Vasari, il était traditionnellement admis que Raphaël avait reçu sa formation artistique dans l'atelier de Pérugin. Or, cette hypothèse est maintenant remise en cause, du moins en partie. Pour certains historiens, l'influence de Pérugin sur Raphaël, bien qu'incontestable, s'exerça plus tardivement. Peut-être pas avant les années 1502-1505. Et l'exposition du musée Jacquemart-André, en fait, tranche-t-elle sur cette question? Et si oui, sur quel exemple s'appuie-t-elle?
Alors, je reviens un petit peu sur, en effet, la problématique que vous avez soulignée. On est certainement mieux renseigné aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de recherches documentaires dans les archives. Bon. Et alors, s'agissant en particulier des ateliers que j'ai évoqués, les ateliers du Pérugin, aussi bien à Florence qu'à Pérouse, on a des listes des noms de ses assistants ou de ses collaborateurs. Donc, on sait à peu près qui l'entourait. Et jamais, jamais, on ne rencontre le nom de Raphaël Sanzio. Jamais. Donc, d'une certaine façon, on pourrait tirer un trait et dire, ben voilà, l'affaire est résolue. Raphaël n'a jamais été l'élève du Pérugin. Alors, ceci étant dit, Raphaël, vous savez, on le surnomme l'Urbinate, c'est-à-dire l'habitant de Urbino, l'urbain. Urbino n'est pas très loin en réalité de Pérouse, et on dit d'ailleurs que son père, qui était lui-même peintre, avait envoyé son fils donc parfaire sa formation. Donc on peut très bien imaginer que ce qui arrive souvent à l'époque et qui est un autre cas de figure, Raphaël ne fait pas son apprentissage dans aucun des ateliers du Pérugin. Voilà, ça on en est sûr. Pour autant, Raphaël peut avoir travaillé comme peintre accompli aux côtés de Pérugin sur un certain nombre de chantiers que celui-ci réalise. Et évidemment, même si ça n'était pas le cas, il suffit de regarder les tableaux du début de la carrière de Raphaël pour comprendre que sa référence, disons dans les années 1500, sa référence, c'est évidemment le Pérugin. À ce moment-là, Pérugin a réussi, à force de grappiller ici et là tous les exemples qu'il pouvait trouver autour de lui, il faut le formuler de cette façon-là. Ça n'est plus un peintre ombrien. Il est devenu, oui, moi j'ose le dire, le premier peintre italien. C'est-à-dire qu'il va proposer lui un style, une formule que tous les artistes italiens, qu'ils soient napolitains ou piémontais, peuvent accepter. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'il va jouer un rôle fondamental dans l'unification artistique de ce grand pays.
Et de son côté, finalement, comment le Pérugin va-t-il tirer à son tour toutes les leçons de l'art de Raphaël ?
Mais alors, quand nous travaillons avec Victoria Garibaldi au montage de l'exposition, je me lamentais. J'ai essayé de ne pas trop le montrer parce qu'il ne faut pas, faire peur à ceux qui vous entourent. Mais je me disais, quel dommage de ne pas pouvoir montrer les fresques de Pérugin, que ce soit celle du Collège du Change ou celle de la Chapelle Sixtine. Quel dommage de ne pas pouvoir montrer telle œuvre qui est... je pense par exemple aux fresques de l'église Saint-Séverin de Pérouse, formidable parce que vous avez juxtaposition de fresques de Pérugin et de Raphaël. Donc vous voyez, on est complètement dans le cas de figure qui nous intéresse, de voir exactement qui a influencé l'autre et de quelle façon. Bon, voilà, je me morfondais dans mon coin en me disant ça sera pas possible. Et puis grâce à Dieu, parce que les collègues conservateurs de musées, dépositaires des œuvres, ont accepté de se dessaisir de leur trésor, on a pu, dans la même salle, remettre côte à côte la prédelle du retable de San Pietro avec deux éléments qui venaient couronner ce grand retable qui, eux... Alors, la prédelle, pardon, est conservée au Musée des Beaux-Arts de Rouen, et les deux tondi auxquels je pense sont conservés au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Voilà, trois tableaux qui se regroupent aujourd'hui. Or, la prédelle, vous me direz, c'est une histoire en trois épisodes, en petit format, on dirait une bande dessinée. Ce n'est pas là qu'on pourra trouver justement ces exemples de l'art italien du XVIe siècle. Mais si vous regardez les deux tondi, là, tout d'un coup, on se dit, mais attendez, ce qu'on nous a raconté jusqu'à aujourd'hui n'est plus vrai. Quand on regarde les deux prophètes qui sont accrochés à nos murs, sur nos simèses, tout d'un coup, on se dit, mais Pérugin, il s'agit de lui, Pérugin a accédé à la dimension monumentale, qui est celle qu'on reconnaît à Raphaël dans les stances du Vatican, qu'il est en train de réaliser juste après avoir quitté Pérugin. Et même quand on regarde encore et toujours ces mêmes prophètes, on se dit, mais enfin, ce sont deux figures de Michel-Ange. Et donc là, on est projeté dans les premières décennies du XVIe siècle. Donc, quand je vois ça, je me dis, écoutez, il suffit de regarder avec vos yeux. Et là, vous vous apercevez que Pérugin n'a pas arrêté, vous voyez, la montre ne s'est pas arrêtée à 1500, hop, le style n'évolue plus. Non, Pérugin va continuer à regarder. Et là, on peut dire, oui, bah écoutez, ça ne l'a pas, vexé de regarder un de ses élèves, Raphaël, et s'apercevoir qu'il poussait, en effet, la création artistique dans un sens qui était peut-être encore plus avancé que ce que Pérugin lui-même avait réalisé. Et à son tour, il va s'en inspirer. Je crois que c'est un des grands mérites de l'exposition. Il y en a quelques-uns, et si vous le permettez, le fait d'avoir ajouté au tableau qui avait été présenté en 2004 à la grande rétrospective organisée par Victoria Garibaldi à Pérouse, grande exposition monographique, une centaine de numéros. Et il y avait bien entendu des tableaux qui n'ont pas pu venir à cette époque pour toutes sortes de raisons. Ces tableaux, on les voit aujourd'hui dans notre exposition. Donc c'est très intéressant. On peut quand même revenir, mieux les comprendre, mieux les situer. Et puis, il y a ce parcours rapide. Enfin, on a essayé, Madame Garibaldi et moi, de le réaliser du mieux que nous puissions pour qu'on ait la meilleure image de Pérugin. Je le disais en début d'entretien, ce que je souhaite, c'est qu'on oublie ce côté gracile. Pérugin n'est pas un artiste, qui verse dans la guimauve. C'est un artiste puissant. Et deuxièmement, Pérugin, qui est certainement le premier artiste italien des années 1480-1500, est un artiste qui, jusqu'à la fin de sa vie, 1523, va continuer à mener sa peinture le plus loin possible et en regardant encore et toujours ce qui se passe autour de lui. Donc, je dirais que c'est un artiste qui n'est jamais fini. En ce sens, c'est pour une raison supplémentaire, un grand maître.
Alors justement, dans les panneaux de Sant'Agostino que vous évoquiez, alors il sait restituer les innovations de Raphaël, et en même temps, cette œuvre aussi parachève toutes ses recherches, les recherches de Pérugin, sur la couleur, porte à son sommet non seulement la valeur expressive de la couleur, mais aussi sa fonction dans la construction des formes. Et certains historiens parlent même au sujet de cette œuvre de fragmentation de la touche. Alors n'est-ce pas là un procédé d'une extraordinaire modernité ?
Bien sûr, non mais vous savez, il faut plus on regarde Pérugin, plus on est surpris, étonné par des tas de choses qu'on ne s'attendrait pas à trouver chez lui. Et là encore, si vous voulez, je trouve que c'est le grand mérite de cette exposition, c'est de nous faire découvrir dans sa peinture des éléments qu'on ne s'attendrait pas à trouver. Et je bats ma coulpe pour les historiens français et autres qui m'ont précédé, peut-être des aspects de sa carrière et de son évolution qui n'ont pas été assez soulignés. Voilà, ceci pour briser, vous le comprenez bien, le côté un peu mécanique, industriel qu'on a trop souvent voulu lui coller à la peau. Au contraire, c'est un homme très sensible, c'est un artiste qui, sa sensibilité le fait réagir à tout fait nouveau qui concerne son art et de ce point de vue-là, je le répète, c'est un artiste qui n'est pas seulement grand parce qu'il réalise des inventions de premier ordre, mais il est grand parce que, je vais tout simplement le dire de cette façon-là, c'est un artiste qui est très émouvant. Quand j'ai la chance de regarder tous les matins de près en faisant l'examen des salles, parce que je dois le faire, m'assurer que la conservation est bonne, que je vois ces peintures vibrantes, on se dit, mais c'est extraordinaire, ce ne sont que des images, et pourtant, elles arrivent à tout d'un coup nous transmettre un sentiment, une expression.
Alors Nicolas Sainte-Fargarno, cette émission s'achève. Merci infiniment d'avoir mis ainsi en lumière pour nos auditeurs la profonde originalité du Pérugin. Merci de nous avoir montré avec toute la passion qui vous anime comment cet artiste extraordinaire fut en quelque sorte un passeur entre l'art du Quattrocento et celui de la Haute Renaissance. une figure incontournable. Donc j'invite bien sûr tous nos auditeurs à visiter l'exposition du musée Jacquemart André, le Pérugin maître de Raphaël, visible jusqu'au 19 janvier 2015. Merci à tous de votre attention fidèle et à très bientôt sur Canal Académie.